Surtout ici au début de l'année, pour qu'on puisse mettre nos projets, comme Ruffin l'a dit, entre les mains du Seigneur pour toute l'année. Alors, donc, pour le message, aujourd'hui, nous terminons notre étude sur le livre des Actes. Et la semaine dernière, nous avons vu les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Ces voyages missionnaires se trouvent entre chapitres 13 et 21 dans le livre des Actes. Et je n'ai pas de PowerPoint ce matin, donc si vous voulez, vous pouvez trouver le livre des Actes dans vos Bibles. C'est dans le Nouveau Testament. Et la semaine dernière, nous avons vu les voyages missionnaires de l'apôtre Paul entre chapitres 13 et 21. Et ces chapitres sont très importants pour l'histoire de l'Église et donc pour notre histoire, parce qu'en général, c'est pendant ces trois voyages missionnaires que Paul a visité et même implanté les églises auxquelles il envoie les lettres qui constituent une grande partie du Nouveau Testament. Donc les épîtres aux Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Thessaloniciens. Est-ce que j'ai mû faire cette semaine? J'avais du mal avec ce terme-là la semaine dernière. Toutes ces épîtres étaient écrites par Paul grâce à ses voyages missionnaires. Et elles trouvent leur origine dans ces trois voyages. Et c'est pour ça que nous avons lu la semaine dernière autant de versets extraits de ces lettres pour regarder ces voyages missionnaires à travers les choses que Paul a écrites à ses églises après ses visites. Notamment, nous avons vu qu'il remercie Dieu presque à chaque fois pour leur foi, pour leur amour et pour leur espérance. C'est un message très interpellant pour nous ici à Bussy, l'Église de Jésus-Christ à Bussy-Saint-Georges. Sommes-nous marqués aussi par la foi agissante et par l'espérance ferme et par l'amour actif? C'est la question clé pour nous, je pense, pour cette nouvelle année. Sommes-nous aussi marqués par ces trois choses? L'amour, l'espérance et la foi. Mais alors, après le dernier de ces trois voyages qui se termine au chapitre 21, il nous reste encore sept chapitres du livre. Huit chapitres. Bon, ça dépend. 22 à 28, en tout cas. Il nous reste quelques chapitres. Et comme la semaine dernière, nous n'allons pas essayer de lire tous ces chapitres et de comprendre tous les détails. Mais en résumé, nous pouvons dire que ces sept chapitres racontent les circonstances d'un quatrième voyage pour l'apôtre Paul. En général, nous n'avons pas l'habitude d'appeler ce quatrième voyage un voyage missionnaire, parce que, quelqu'un sait, qu'est-ce qui se passait pour Paul en ce moment? Il était prisonnier. Il est prisonnier. Au chapitre 21, l'apôtre Paul devient prisonnier de l'Empire romain. Et voici donc la façon dont le livre se termine. On va lire chapitre 28. On va commencer au verset 16. C'est la fin du livre. Donc, verset 16, c'est Luc qui écrit. 28, 16. Après notre arrivée à Rome, Paul fut autorisé à loger dans un appartement personnel sous la garde d'un soldat. Au bout de 3 jours, il invita les chefs des Juifs à le rencontrer. Quand ils furent réunis chez lui, il leur dit, « Mes frères, bien que je n'ai rien fait de contraire aux intérêts de notre peuple, ni aux traditions de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. » Ceci, et tout ça, c'est raconté dans les chapitres précédents. Ceci, après enquête, voulait me relâcher parce qu'il n'avait trouvé aucune raison de me condamner à mort. Mais, comme les Juifs s'y opposaient, je me suis vu contraint d'en appeler à l'empereur, sans pour autant vouloir accuser mes compatriotes. Et c'est ce qui explique que je vous ai invité à venir me voir et vous entretenir avec moi, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Les Juifs lui répondirent, « En ce qui nous concerne, nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou pour nous dire du mal de toi. Mais nous pensons devoir t'entendre exposer toi-même ta pensée. Quant à la secte dont tu fais partie, nous savons qu'elle rencontre partout une sérieuse opposition. » Et puis on va sauter au verset 30, les deux derniers versets du livre. Paul resta deux années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tout ce qui venait le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le livre des Actes que nous étudions depuis 4 mois, il se termine avec Paul en prison. Toujours prisonnier de Rome, à Rome. Et dans ce sens, c'est une façon étrange de terminer un livre qui est consacré à raconter les effets de la victoire de Jésus et l'avancement de son règne sur terre. 8 chapitres sur cette histoire d'emprisonnement. Et voilà, c'est tout, c'est la fin du livre. Ça s'arrête là. Et surtout, après avoir lu le reste de ce livre, avec tout ce que Dieu a fait pour les apôtres, y compris plusieurs fois où certains apôtres sont miraculeusement libérés de prison, on pourrait bien s'attendre à ce que Dieu fasse pareil dans cette situation. Que le chapitre 28 raconte sa sortie miraculeuse de cette situation pour qu'il puisse continuer à faire son ministère. Mais non, ça se termine avec Paul encore prisonnier. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi? Comment ce livre peut-il se terminer ainsi, avec Paul, l'apôtre Paul? Paul encore prisonnier. Et vu sous un certain angle, c'est presque une tragédie. Toute histoire. Que ce soit un livre, un film, une pièce de théâtre, toute histoire qui se termine avec un des personnages principaux en prison, on le considère une tragédie. C'est l'inverse d'une fin heureuse. C'est l'inverse d'un conte de fées dans lequel ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Certes, la Bible n'est pas un conte de fées, mais quand même, comment est-ce qu'un livre qui commence en annonçant le règne de Jésus ne peut-il se terminer par une fin heureuse? Comment un livre qui pourrait bien s'appeler les actes de Jésus lui-même peut-il se terminer par un dénouement triste? Comment? En effet, tout dépend de notre définition d'une fin heureuse, n'est-ce pas? Est-ce vraiment une fin tragique que Paul se trouve prisonnier lorsque le rideau tombe à la fin du chapitre 28? Est-ce une fin tragique? Ça dépend. Revenons au début de ce livre, chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8. Ici, c'est Jésus qui parle avant son ascension au trône. C'est encore Jésus qui parle. Chapitre 1, verset 8. Et on lit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » C'est le verset clé de ce livre. C'est le centre de ce livre. Toute l'histoire de ce livre est basée sur ce schéma. Les disciples témoignent d'abord à Jérusalem, du chapitre 1 à 7, et puis dans la région de Judée et en Samarie jusqu'au chapitre 12, et puis dans les villes non-juives, à partir du chapitre 13. Et la ville principale des non-juifs, c'est Rome. Rome, la capitale de l'Empire. Rome, la demeure du roi qui se prend pour le roi de la terre, l'empereur romain. C'est le centre du pouvoir terrestre. Et donc, relisons les versets à la fin du livre qu'on vient de lire. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué sous garde des soldats. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Il proclamait le règne de Jésus sans aucun empêchement. Au sein de la capitale de l'Empire romain, une ville païenne dans laquelle vivait l'empereur Néron, qui se prenait pour le roi du monde, et il faut s'en souvenir, pour un dieu aussi. Et c'est là, dans cette ville, que Paul a pu annoncer la venue et le règne du vrai Dieu et du vrai roi de la terre. Cette image est extrêmement frappante quand on lit ce livre du début jusqu'à la fin. Et je vous conseille, quand vous avez le temps, lisez les livres bibliques du début jusqu'à la fin. Ils étaient écrits comme un ensemble. Et on peut vraiment voir l'idée d'un livre ou d'une lettre en lisant du début jusqu'à la fin. Et quand on fait ça avec le livre des Actes, on voit cette image des disciples qui étaient envoyés et ça se termine au centre de l'Empire romain, du pouvoir terrestre. Et là, Paul annonce le vrai roi. C'est exactement comme Jésus l'a annoncé à son ascension. Les disciples vont être les témoins de Jésus, mais pas toujours par les moyens qu'ils auraient imaginés. Ça, c'est sûr. Et donc, en effet, on pourrait bien appeler ce dernier voyage de Paul son 4e voyage missionnaire. Son voyage de Jérusalem jusqu'à Rome, c'est son 4e voyage missionnaire. Car tout en étant prisonnier, il reste le témoin du roi. Et malgré sa situation, il arrive à annoncer le règne de Jésus au sein de l'Empire romain. Et c'est à partir de cette ville que l'évangile va se répandre jusqu'aux limites de l'Empire, et même plus loin. Le fait d'être prisonnier n'empêche pas le 4e voyage missionnaire de Paul, qu'il a toujours envisagé. Il le permet. Le fait d'être prisonnier, c'est ça qui permet le 4e voyage missionnaire. Car Paul reste toujours un témoin du roi, partout où il va, malgré les circonstances. C'est ça le sens du mot missionnaire, un témoin envoyé quelque part pour y témoigner. Alors, on appelle Sheila et moi souvent missionnaires. En effet, c'est notre titre professionnel. Nous sommes employés par une mission, par une agence missionnaire. Et cette agence nous a chargés d'aller dans un pays qui n'est pas le nôtre pour annoncer la parole et pour y servir les églises. C'est notre mission et donc nous sommes missionnaires. Et parfois, ce que nous faisons en tant que missionnaires, ça ressemble un peu à ce que Paul a vécu pendant ses 3 voyages missionnaires. Nous avons dû quitter notre ville d'origine pour aller de ville en ville, chercher du soutien spirituel et financier comme Paul. Parfois, nous devons avoir un boulot à côté pour gagner assez pour vivre, comme Paul l'a fait d'ailleurs. Nous restons dans un endroit jusqu'au moment où Dieu nous appelle ailleurs, et nous écrivons beaucoup de lettres. Pas des épîtres inspirées par le Saint-Esprit, bien sûr, mais des lettres quand même, des lettres aux églises que nous avons visitées et aux églises que nous aimerions bien visiter un jour. C'est ça la vie classique d'un missionnaire. Mais il y a un problème avec ce terme, avec cette définition de missionnaire. Et c'est que ça ne tient pas compte de toutes les autres manières dont on peut être missionnaire. La définition classique de ce terme, comme moi je le vis et comme l'apôtre Paul l'a vécu entre chapitre 13 et 21, ça implique qu'après chapitre 21, Paul n'est plus missionnaire parce que maintenant il est prisonnier. Mais ça marche pas comme ça. La façon dont Paul a vécu la vie d'un missionnaire entre chapitre 13 et 21, c'est une des manières d'être missionnaire, mais qu'une seule. Et donc moi, je vais continuer à appeler le voyage de Paul de Jérusalem jusqu'à Rome en tant que prisonnier son quatrième voyage missionnaire. Parce que ça nous rappelle que il y a beaucoup de manières dont on peut être missionnaire. Très peu d'entre nous vont devenir missionnaires classiques, comme moi. Certains peut-être, quand même. Je rêve d'envoyer des gens de cette assemblée dans une autre région ou dans un autre pays pour annoncer la parole et pour vivre le règne de Dieu. Comme par exemple la famille Gonga. Je ne sais pas s'il y en a ici qui les connaissent, mais la famille Gonga de l'église de Ponto Combo y construit maintenant une école chrétienne à Pointe-Noire avec la mission Oikos. Ou bien les équipes à court terme de notre réseau qui vont aider Benjamin Short et sa nouvelle femme à Wolo, au nord de la Côte d'Ivoire. Ou comme Alessio vient de faire tout récemment en Italie. On peut faire des projets comme ça et on devrait y penser et prier dans ce sens. Nous pouvons faire ce genre de choses en tant qu'assemblée. Mais cela dit, n'oublions jamais que l'image que nous avons dans la Bible et surtout dans le livre des Actes, la vision que nous avons de ce que ça veut dire être missionnaire, elle est beaucoup plus large que tout ça. Parce qu'il y a d'abord ce voyage de Paul en tant que prisonnier à la fin du livre. Mais revenons aussi un peu en arrière, au début du livre, le jour de la Pentecôte. Qui est-ce qui entend les témoignages des disciples? Vous vous souvenez peut-être, j'espère, bah, ça remonte un peu, mais quand même. Chapitre 2 de ce livre, on lit que toute l'idée de ce jour-là, le jour de la Pentecôte, le grand miracle que Dieu fait, c'est de faire parler ses disciples dans des langues étrangères pour que la foule puisse comprendre leur témoignage. Et pourquoi y avait-il tellement de juifs à Jérusalem qui parlaient des langues étrangères? Parce qu'ils sont venus à Jérusalem pour la fête juive qui s'appelait justement la Pentecôte. Et c'était des juifs venus de partout dans le monde occidental. Ils sont venus et après, ils allaient faire croix. Ils allaient rentrer au pays. Et ceux qui ont cru, ils allaient prendre l'évangile avec eux. Ils étaient maintenant, eux aussi, témoins du roi. Et par sa providence, il les envoyait, non pas dans un pays étranger, comme un missionnaire classique. Il les envoyait dans leur pays d'origine, pour y être ses témoins. Et là, ils étaient des missionnaires. C'est magnifique quand on y pense, comment Dieu a arrangé les choses pour que la bonne nouvelle de son règne et de sa grâce se répande. Imaginons les disciples à l'ascension de Jésus, au chapitre 1, au verset 8, lorsque Jésus dit qu'ils vont aller être ses témoins jusqu'au bout de la terre. Ils n'étaient probablement qu'une petite centaine à ce moment-là. Et la plupart d'entre eux n'étaient jamais sortis de leur petite région, d'autant moins de leur pays. Comment allaient-ils arriver au bout de la terre? Ça coûte cher, ça se fait pas juste comme ça. Comment Dieu allait-il faire ça? Et puis, Après, Jésus dit qu'ils vont aller jusqu'au bout de la terre. Le bout de la terre arrive chez eux. Ces gens arrivent de partout dans la ville où se trouvent les disciples, précisément où Dieu les avait placés. Et quand ils repartent, l'évangile va avec eux. Et donc, pour nous, ça veut dire que ceux qui nous quittent sont des missionnaires. Nous avons tous des gens qui arrivent dans notre vie pour un peu de temps et qui repartent. Dans cette assemblée aussi, et dans cette ville, il y a des gens partout ici dans cette ville, de partout ici dans cette ville, et dans cette assemblée. C'est magnifique quand on est là devant et voir tous les pays qui sont représentés dans cette assemblée. Beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, et certains comme les gens à Jérusalem pour la Pentecôte, certains vont repartir. Et s'ils ont touché par l'évangile avant de partir, s'ils ont la foi en Jésus, l'évangile va avec eux. Et à chaque fois que quelqu'un quitte cette assemblée, nous envoyons des missionnaires. À chaque fois que quelqu'un nous quitte, nous envoyons des missionnaires. Et ça veut dire aussi que si c'est vous qui partez, pour n'importe quelle raison, si vous partez en tant que croyant, là où vous allez, vous êtes missionnaire. C'est notre appel et c'est aussi, j'espère pour vous, un encouragement. Parce que parfois, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous amène ici ou là dans la vie. Pourquoi faut-il quitter notre pays, ou telle ville, ou telle assemblée qu'on aime tant? Nous nous trouvons mutés ou obligés de partir pour nos études, ou pour des raisons familiales ou autres. Et nous pouvons facilement nous poser la question, pourquoi? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrangé les choses différemment? Et on connaîtra peut-être pas jamais les raisons exactes, mais on peut savoir que ça a toujours été comme ça pour le peuple de Dieu. Ça a toujours été comme ça que Dieu a fait répandre son règne. Ce n'est pas les missionnaires professionnels, entre guillemets, qui font répandre l'évangile, alors qu'on espère bien y participer. Mais ça a toujours été les gens normaux, encore entre guillemets. Je ne sais pas si vous vous considérez des gens normaux, mais peu importe. Ça a toujours été des gens qui n'étaient pas des missionnaires professionnels. Des gens qui se déplacent pour des raisons diverses qui ont fait répandre la bonne nouvelle de Jésus. Si c'était aux missionnaires professionnels, ça n'aurait pas eu lieu finalement. Ce sont des missionnaires imprévus, on pourrait dire. Depuis le début de l'Église, l'Europe par exemple, l'Europe n'a pas été évangélisée principalement par des missionnaires professionnels. Mais en fait, c'était par les immigrés que la foi est venue en Europe. Oui, on entend parfois des histoires émouvantes de certains missionnaires comme Patrick en Irlande ou d'autres un peu moins connus comme Boniface. Mais historiquement, ce sont des gens qui se déplacent pour d'autres raisons, mais qui restent fidèles à Jésus par leur vie et par leurs paroles. C'est par ces missionnaires imprévus que l'évangile s'enracine dans un pays. Alors, regardons un autre groupe comme ça dans le livre des Actes. Les gens de qui on lit en Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, verset 19. C'est quelques chapitres après le martyr d'Étienne, le premier martyr chrétien. Chapitre 11, verset 19. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs, en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et donc, bien avant les voyages missionnaires de Paul, nous avons non seulement les Juifs qui rentrent dans leur pays après la Pentecôte, qui vont être des missionnaires imprévus, mais aussi ces gens-là, au chapitre 11, qui sont dispersés dans toute la région autour de Jérusalem. Et cette fois-ci, c'est à cause de la persécution. Comme pour l'apôtre Paul, c'est pas pour une raison anodine que ces croyants se trouvent envoyés. Et c'est encore comme ça pour l'Église maintenant. Ce sont parfois des circonstances très, très difficiles dans notre vie qui nous permettent et qui nous forcent même de devenir témoins dans une situation que nous n'aurions absolument pas choisie pour nous-mêmes. Ça peut être dans un pays étranger, mais ça peut être aussi à un boulot qu'on n'aime plus, ou dans des relations qu'on n'aurait pas choisies ou qu'on n'aurait dû pas choisir. Ou n'importe quelle autre situation dans notre vie qui devient pour nous notre champ missionnaire. Et la question pour chacun de nous, c'est quel est votre champ missionnaire? Le champ missionnaire que vous n'auriez pas choisi. Tout comme ses disciples n'auraient pas choisi de quitter leur pays d'origine. Mais qui est maintenant pour toi le contexte dans lequel tu vis ta vie de croyant? Certains dans cette assemblée sont venus en France pour des raisons semblables à celles des disciples en Actes 11, en fuyant la guerre dans votre pays, ou les soucis économiques, ou une autre situation que vous ne supportiez plus. Et vous êtes là maintenant, et ce n'est pas un hasard. Si vous êtes là, la France est maintenant votre champ missionnaire. Si vous êtes là maintenant, la région parisienne est votre champ missionnaire. Si vous êtes là ce matin, Bussy-Saint-Georges est votre champ missionnaire. Pour n'importe quelle raison, ce sont vos champs missionnaires. Peu importe ce qui vous a amené ici. Et prenez donc courage. Vous n'êtes pas les premiers à être chassés de votre pays, si c'est votre cas. Et vous n'êtes pas les premiers qui sont ainsi devenus des missionnaires imprévus, des missionnaires clés à l'avancement du règne de Dieu sur terre. Et si vous vous trouvez dans une autre sorte de situation difficile, vous n'êtes pas les premiers à être envoyés ainsi, et vous êtes là pour une raison. Et si demain, ou plus tard dans cette année, dans cette nouvelle année, ou les années à venir, il se trouve que vous devez quitter ce pays, ou cette région, ou cette assemblée. Ne le prenez pas pour un hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Reconnaissez plutôt la main de Dieu à l'œuvre, comme elle était à l'œuvre le jour de la Pentecôte, et après le martyre d'Étienne et dans l'emprisonnement de Paul. La main de Dieu à l'œuvre, non seulement pour le bien, pour ton bien, mais aussi pour le bien de son peuple, selon son plan. Reconnais que tu es un missionnaire imprévu. Et si tu pars ou si tu restes, tu es le témoin du roi dans l'endroit où Dieu t'a placé. Nous lisons dans les lettres de Paul qu'il a voulu visiter les croyants à Rome depuis longtemps. Mais il n'arrivait pas à y aller. Et finalement, c'est le fait que sa vie soit menacée qui permet qu'il y arrive. Parfois, c'est très difficile pour nous de voir pourquoi certaines choses nous arrivent, pourquoi Dieu permet que certaines choses nous arrivent. Mais nous pouvons avoir confiance dans toutes circonstances qu'il est à l'œuvre et qu'il a un plan pour nous. Non pas juste un plan pour notre vie personnelle, mais un plan pour nous qui va nous permettre d'être ses témoins, quelque part où il y en a besoin. Dans une ville, à un boulot, dans une famille, nous sommes ses envoyés, nous sommes ses missionnaires. Et il nous reste donc une dernière question pour terminer. Comment le faire? Comment être un missionnaire si c'est ce que nous sommes? Moi, j'ai eu de la formation pour notre agence missionnaire. Nous étions obligés de faire une formation, mais tout le monde n'a pas forcément ce privilège. Donc, comment être missionnaire? C'est une chose de faire quelque chose de prévu dans notre vie, mais les choses imprévues, ça peut sembler beaucoup moins évident. On peut se dire, en voyant la vie de l'apôtre Paul, ben oui, ça va pour lui. Il était formé pour sa tâche. Il était très instruit. Il voulait être missionnaire. Même s'il ne cherchait pas forcément à le faire en étant prisonnier, il voulait être missionnaire. Mais moi, je ne suis pas instruit. Je ne sais pas enseigner. J'ai pas ses dons. J'ai pas fait l'institut biblique. On peut dire beaucoup de choses de ce genre. On peut dire, je me sens pas vraiment avoir le don d'évangéliste. Comment imaginer que je suis missionnaire alors, prévu ou pas? Il y a deux réponses simples à cette question. D'abord, être missionnaire, ça veut dire être témoin. Et si nous sommes tous appelés à être témoins, nous ne sommes pas tous enseignants, c'est pas grave. Nous n'avons pas tous le don de l'évangéliste. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. C'est ça la richesse d'un corps, la richesse de ce corps du Christ que nous sommes. Quels que soient nos dons, nous pouvons tous contribuer à la vie de l'Église. Nous pouvons tous témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que nous avons vécu avec Dieu. Peu importe nos dons, nous pouvons tous vivre le règne de Dieu et l'amour du Christ. Et donc, nous pouvons tous être missionnaires. Nous le sommes si nous le voulons ou pas. Oui, l'apôtre Paul avait les dons de l'évangélisme et l'enseignement. Mais les gens qui sont rentrés après le jour de la Pentecôte et les gens qui étaient dispersés par la persécution, pas forcément. Certains si, mais pas tous. Mais c'était en rentrant et en vivant ensemble comme le cœur du Christ que le règne de Dieu s'est répandu. Si nous faisons chacun partie de son cœur, nous pouvons chacun participer à sa mission, là où nous sommes. Et c'est ça qui fait de nous des missionnaires. Non pas le fait d'avoir tel ou tel don. C'est le fait d'obéir et d'être transformé par la parole et par l'esprit. Et donc la deuxième réponse à la question « Comment être missionnaire imprévu ?» c'est de le prévoir. Dès que nous comprenons que nous sommes tous appelés à être missionnaires, il n'est plus en fait une question d'être missionnaire imprévu. Je vous préviens. Peut-être certaines de nos tâches resteront imprévues. Oui, certains aspects de ce que Dieu demande de nous vont nous surprendre, parce que c'est lui qui dirige nos pas, et non pas nous-mêmes. Mais dans tous les cas, nous pouvons dès maintenant commencer à nous préparer pour vivre et pour annoncer son règne partout où il nous amène cette année. Et ça veut dire plusieurs choses, se préparer. Ça veut dire connaître sa parole, connaître la Bible. Non pas juste pour nous-mêmes, mais pour que nous soyons capables de l'utiliser pour encourager et pour témoigner aux autres. Non pas pour les frapper sur la tête, mais pour les encourager. Et pour témoigner. Et prenons au sérieux notre responsabilité d'étudier la Bible et de la comprendre. Et deuxièmement, ça veut dire prendre au sérieux notre responsabilité d'appliquer la parole. De la laisser transformer notre vie. Ce n'est pas suffisant de connaître la parole. Comme Jésus le dit en Matthieu 7, c'est celui qui entend la parole et la met en pratique qui la suit vraiment. Et comme nous avons vu tout au long de ce livre, cela ne se fait que par la puissance du Saint-Esprit et par la prière. Mais en le disant ainsi, n'imaginons jamais que ce ne sera pas du travail pour nous. Ce n'est pas de la magie. C'est un effort. Il faut qu'on fasse un effort. Nous pouvons prier sans cesse et nous pouvons demander que l'Esprit nous transforme. Mais si nous ne faisons aucun effort nous-mêmes de mettre en œuvre notre salut, comme Paul le dit en Philippiens 2, nous n'avons pas vraiment saisi l'engagement que Dieu demande de nous. Il demande que nous vivions comme des sacrifices vivants. Alors, vous savez tout ça déjà, j'espère. La parole, l'esprit, mettre la foi en pratique. Mais ce qu'il faut retenir maintenant, à la fin de ce livre et au début de cette année, après avoir étudié tout ce livre des Actes, c'est que ces choses-là, elles sont au fond de notre appel missionnaire. La parole, l'esprit, témoigner, mettre la parole en pratique, c'est un appel missionnaire. Quand Jésus nous dit de faire ceci ou cela, de vivre de telle ou telle manière, ce n'est pas arbitraire. Et ce n'est pas tout simplement une question de notre relation avec lui, alors que c'est ça aussi. Au fond, c'est une question d'être ses témoins, de refléter son caractère. Au fond, c'est une question de vivre et d'annoncer son règne. Au fond, c'est une question missionnaire. Un missionnaire est un témoin qui a été envoyé quelque part. Si nous avons mis notre foi en Jésus, nous en sommes tous témoins et nous sommes tous envoyés quelque part. Il y a une place dans le plan de Dieu pour des missionnaires professionnels. J'en suis convaincu. Sinon, je ne serais pas là. Mais ce livre que nous venons d'étudier, qui va de Jérusalem à la Judée et à la Samarie et puis jusqu'au bout de la terre, ce livre des Actes des apôtres, et de Jésus lui-même. Ce livre nous enseigne du chapitre 1 jusqu'au chapitre 28 que nous avons toute une mission et que nous sommes tous envoyés par le roi Jésus vers quelqu'un. Je ne sais pas où vous allez vous trouver à la fin de 2016. J'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que cette année amène pour vous ou pour moi. Mais où que ce soit, et que ce soit notre choix ou pas, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous a appelés et qu'il y va devant nous. Allons-y donc, allons-y avec courage et avec foi, parce que c'est le roi de l'univers qui nous appelle. Prions. Notre Seigneur, le roi de l'univers, le roi que nous voyons, qui nous voyons dans ce livre, qui est à l'œuvre dans ce monde et dans notre vie. Nous remettons toute cette année entre tes mains. Nous remettons toute notre vie entre tes mains. Nous voyons ton appel, que nous soyons tes témoins. Nous voyons que tu nous envoies et nous voulons te suivre. Que tu nous aides à vivre une vie de témoin, une vie de missionnaire, là où nous sommes cette année. Nous avons besoin de ta grâce et de ton amour à chaque instant. Et nous t'invitons à venir nous transformer pour que nous puissions te suivre cette année. Au nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup, Jérémia, parce que c'est bon de rappeler effectivement qu'on est tous missionnaires partout où on va. Et moi, je me rappelle, il y a 3 ans, j'étais tranquillement à mon travail, installé, et on m'a dit, tu vas partir chez un autre client. J'étais à côté de chez moi, et on m'a dit, tu vas partir à l'autre bout de l'Île-de-France. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi aussi loin? Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec cette vision de dire qu'effectivement, partout où on va, on est missionnaire, on est envoyé, ça prend une autre dimension. Parce que je me dis, voilà, Dieu m'envoie là pour quelque chose. Ça peut être à l'autre bout de l'Île-de-France. Ça paraît incommensurable pour nous. Effectivement, quelques-uns ont quitté leur pays, Mais si vous passez même d'un extrême à l'autre de l'Île-de-France, vous avez l'impression que vous voyagez, mais c'est pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu et que vous puissiez être aussi un envoyé là où vous allez. En tout cas, merci pour ce message. On va se lever ensemble et on va chanter un dernier chant, un chant de victoire pour Jésus.